I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La mamie que vous allez entendre habite dans un des sites majeurs de la Côte des Légendes, le phare de Pontusval, à Plounéour-Brignoc-en-Plage, et connu pour être le plus photographié de Bretagne. Ce phare est visible sur de très nombreux supports, vous l'avez certainement déjà aperçu, mais sans vraiment savoir où il se situe. Et bien maintenant, vous saurez qu'il se trouve sur la côte nord du Finistère, à peu près 45 minutes de Brest. Un bout de terre connu pour ses rochers légendaires, blocs de granit millénaires, qui ne demande qu'à être escaladé par les amateurs de grimpe. C'est entre ces rochers que se niche, non loin de là, le corps de garde du site de Ménéam à Kerlouan, ainsi que l'ancien village de paysans pêcheurs guémoniers au toit de chaume reconstruit. Ici se cachent aussi des plages de sable fin à l'eau azur. Bienvenue sur la Côte des Légendes.
Bonjour.
Bonjour. Merci de nous accueillir.
Enchantée. Bonjour.
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents ?
Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme. Vous aviez
20 ans. Bah, qui on va fréquenter ? Grand-mère.
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Marie-Paul.
Alexa, arrête de... Éteins la télévision.
Marie-Paul habite une étrange maison, au bout du monde. C'est la dernière gardienne de phare. Il faut donc vous imaginer son salon, entouré de l'océan de chaque côté. C'est petit, mais ça fait cocon. Alors, assise dans son salon, elle m'a donné ses souvenirs, comme elle dit. Bonne écoute.
On commence, là.
Là, on commence. Allez-y.
Alors, je m'appelle Marie-Paul Le Gouen. Mais je m'appelais Marie-Paul de Galles avant de me marier. Et je suis née à Brignogan, dans un quartier de pêcheurs. Mon père était pêcheur. On était tous pêcheurs et paysans en même temps. Donc je suis née le 3 juillet 1941 et je n'ai jamais quitté Brignogan. J'ai deux sœurs et un frère, mais mon frère est décédé. Mon enfance, c'était... Parfois, on était à l'école, hein, bien sûr. J'avais une amie dans le même quartier que moi, qui est devenue ma belle-sœur, d'ailleurs. Et donc, on était tout le temps ensemble, et puis c'est une enfance normale, quoi. Donc, mon père était pêcheur, et nous avions une petite ferme à côté. Donc, on faisait les deux, on faisait la pêche et la culture. On avait deux vaches. Donc, comme ça, on avait du lait et du beurre. Et on avait des lapins, des poules, enfin... Donc, c'était la vie de ce quartier-là, quoi. Nous étions à peu près tous au même stade.
Et pourquoi les pêcheurs avaient aussi des terres ? C'est fréquent, ça ?
En ce moment-là, c'était fréquent. Parce que c'était la petite pêche, qu'on appelait ça. Mais on ne pouvait pas vivre que de la ferme. Et on ne pouvait pas vivre que de la pêche.
D'accord.
Donc, il fallait faire les deux. Parce que la pêche, c'est toujours aléatoire. Un jour, vous avez une bonne pêche, le lendemain, il n'y a rien. Enfin,
votre papa, il aimait bien aller en mer ?
Ah oui. Ah oui, c'était sa vie, ça. Hein. Il a commencé à 13 ans. Et à la rame. Il n'y avait pas de moteur en ce moment-là. Il a gagné sa, sa retraite à bout de bras. Donc, à bout de bras, il n'a jamais eu de moteur.
Jamais.
Jamais. Et presque tout ce qui était dans le quartier était comme ça. Donc, il y avait deux rames, deux avirons, quoi. Et il allait comme ça, autour des rochers.
Et avec un filet?
Non, des casiers. Vous savez ce que c'est, les casiers? Ce sont des nasses qu'on met au fond de l'eau, avec de l'appât, pour attirer le crabe, enfin, le poisson et tout ça.
Et votre maman, elle s'occupait de la ferme, plutôt?
Oui. Et nous, après, en grandissant, quoi. On allait au champ avec mon père, et puis...
Commencer de grandir avec son père pêcheur en sachant que il peut y avoir une tempête.
On a vécu avec. On n'était jamais tranquille quand, parce que il y a souvent des tempêtes quand même. Et il y a une partie de l'année, une partie de l'hiver où il n'allait pas en mer. C'était trop dangereux.
Et vous, vous alliez à l'école du coup?
Ah oui, c'était obligatoire là, jusqu'à mon certificat d'études. Après, bon, mes parents ne voulaient pas me mettre dans l'école publique. Et l'école privée coûtait trop cher.
Et pourquoi pas l'école publique?
Ah non, c'était les convictions de mes parents. Ils nous convictions à nous aussi, parce qu'on nous a inculqué tout ça, quoi. Donc on était chez les sœurs, quoi. Moi, j'ai aimé l'école parce que j'apprenais assez facilement. Et ma foi, il y a eu des moments aussi, c'était un peu... il y a eu du chahut aussi...
Elles étaient sévères, les sœurs, ou...
Oui, très sévères. Elle ne s'est rien passé. Remarquez, il y a quand même eu où on me tape sur les doigts avec la règle. Et moi, du fait que j'étais gauchère, on m'a obligée d'écrire à ma main droite. Et ça a été dur. Ben, c'était la méthode avant. Hein. Vous savez, quand je suis rentrée à l'école, je ne savais pas un mot de français. Mes parents parlaient breton. Eh bien, on n'avait pas le droit de parler en breton à l'école. Et on ne savait pas un mot de français. On était obligés d'apprendre, quoi. Et ensuite, j'ai été, ils appellent ça le cours ménager. Donc, j'ai fait un an, j'ai dit à ma mère, Et là, ça a été encore plus dur, parce que je ne pouvais pas coudre avec ma main droite.
Ils ne voulaient pas que vous cousiez avec votre main
droite? Non, et je ne pouvais pas. Avec ma main gauche, ça va tout seul, mais avec ma main droite, non. On mettait mon bras dans le dos, hein. C'est pour ça que j'ai fait un an, j'ai dit à ma mère, si tu veux gaspiller ton argent là-dedans, tu m'amènes là-bas, mais je ne ferai rien. Pour moi, c'était une torture. Aussitôt que la sœur avait le dos tourné, je retournais mon tissu, et je faisais ma main gauche.
Ça ressemblait à quoi, les cours ménagers? C'était quoi le...
Apprendre la cour, la cuisine, c'était pas mal, mais non. Pour celui qui aimait ça, c'était bien. Mais moi, je ne pouvais pas. Du fait qu'on me punissait, pour moi, c'était une punition.
Et aujourd'hui, vous pouvez écrire avec votre main gauche?
Non. Non, non, ça, j'ai jamais pu après. Je suis plus à droite avec ma main gauche. Les enfants du bourg, on se fréquentait pas. Mais après, à l'école, oui.
Il y avait une distinction entre les pêcheurs et le reste?
Oui. Elles étaient... les filles du bourg, comme on les appelait, c'était des filles quand même qui étaient toujours bien habillées, toujours. Tandis que nous, c'était beaucoup plus simple, quoi. Il y avait quand même un certain niveau, quoi. De vie, de toute façon. Elle avait quelque chose de plus que nous. Peut-être des moyens aussi, hein, c'est ça. Quand j'ai eu mon certificat d'études à 14 ans, et donc j'ai fait une année, j'avais 15 ans quand je suis restée à la maison. Et déjà, mon frère et mes deux sœurs étaient mariés, donc je suis restée seule à la ferme avec mes parents. Et j'allais au champ avec mes parents, je vivais à la ferme, quoi. C'était pas toujours évident parce que j'avais envie de continuer mes études, en plus, c'était rageant, quoi.
Vous voulez continuer les études, pourquoi?
Parce que j'aimais ça. Parce que j'aimais ça, et puis je voulais sortir un peu du rang, quoi.
Vous vouliez faire quoi?
Peut-être institutrice. Après, je suis restée... Bon, l'été, j'allais faire des ménages chez les touristes pour gagner un peu d'argent. Et je suis restée jusqu'à mes 23 ans chez mes parents. Je me suis mariée à 23 ans.
Et du coup, quand vous étiez chez vos parents, donc de vos 15 à 23 ans, ça ressemblait à quoi, votre vie?
Aller au champ. Ben, il y avait des légumes, il y avait... Puis il y avait les vaches, il fallait garder les vaches aussi, quoi.
Et du coup, comment vous avez rencontré votre mari, enfin...
Mais comment je l'ai toujours rencontré. Je me suis mariée avec mon plus proche voisin. Voulez-vous? J'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Parce que au départ, lui aussi faisait la pêche. Donc il faisait la pêche avec son père et mon père.
D'accord.
Et par la suite, il a voulu partir. Il s'est engagé dans la marine marchande. Et là, bon, on se voyait moins parce qu'il partait parfois pour 7-8 mois. Enfin. Donc, en plus, il avait 9 ans de plus que moi, donc je ne voyais pas la vie comme ça à 15 ans. Quand il a eu 31 ans, on s'est mariés. Lui, 32 ans, il avait. Et moi, j'avais 23 ans. On a eu 2 enfants. J'avais 15 ans quand vraiment j'ai commencé à voir, parce que c'était un beau garçon. Et je me dis, pourquoi pas, quoi. Mais après, il est parti. J'ai fait ma jeunesse comme... à chaque fois qu'il revenait, bon, on se voyait, puis voilà, ça continue comme ça.
Vous écriviez des lettres quand...
Oui. On a vécu 5 ans dans un appartement au bourg, et on est arrivé ici.
Et comment vous êtes arrivé ici?
La gardienne qui était avant moi partait en retraite, et puis... Elle nous a en parlé. Pourquoi pas, on a un logement, et moi j'aurais un métier. Entre mon mariage et ici,
oui.
J'ai eu ma fille 10 mois après. Hein. Et quand mon mari partait, je ne travaillais pas. Je m'occupais de ma fille. Et 3 ans après, j'ai eu mon garçon. Et de là, on est arrivé ici. Mon fils avait 1 an. Et ma fille avait 3 ans. Et puis voilà, j'ai pris mes fonctions le 15 octobre 68.
Donc c'était votre premier travail
Oui.
Et alors, ça faisait quoi
Au début, bon, c'était un peu stressant parce que, quand même, il y avait la mise en route et tout ça. On m'avait expliqué comme ça, mais il fallait que je me... Parce que c'était moi la gardienne. Hein. Mon mari, lui, il était dans la marine marchande, donc il était par à coup ici, quoi. Alors, quand j'entendais, parce que j'avais une sonnerie comme ça ici. Par exemple, quand il y avait des tempêtes, tout ça, souvent les fils cassaient avec les fils électriques, c'est... Donc là, il n'y avait plus de courant. La sonnerie se mettait en route. Là, vous pouvez être sûr que j'avais peur au départ. Hein. Et puis ça s'est fait.
Il fallait faire quoi dans ces cas-là quand les fils cassaient?
C'est-à-dire qu'il fallait voir, parce que c'était branché sur des batteries quand même, si le feu de secours avait démarré. Si ça avait démarré, il fallait que j'aille voir si l'ampoule. Et fonctionner aussi parce que aussi vite c'était l'ampoule qui était naze, quoi. Et après, dans l'EDF, fournir voir pour les fils et prévenir à Brest que j'étais en panne.
Ça ressemble à quoi une tempête ici quand...
Oh, bah, ça souffle. Ouh. Bah, la mer automatiquement était mauvaise hein, quand il y avait du vent.
C'est quoi un feu de secours du coup?
Bah, c'était des batteries et que le phare était branché sur les batteries. Donc, quand le phare à l'ampoule s'arrêtait, le feu de secours se mettait en route. Mmh. Et là, comment il fallait signaler, parce que la visibilité n'était pas la même. Au départ, bon, encore, j'ai eu une chance, parce qu'avant, c'était au pétrole. Eh bien, quand il y avait une panne, il fallait qu'il monte avec un broc de pétrole pour l'alimenter. Je remercie d'avoir pu rester, d'avoir ce travail-là. Je travaillais et je pouvais m'occuper des enfants. dans la journée, bon, je pouvais quand même aller faire mes courses, je pouvais aller emmener mes enfants à l'école, et puis j'avais quand même mon salaire tous les mois. Ben, il y avait l'entretien de la dame là-haut, mais ça, c'était pas tous les jours, hein. Bon, il y a les marches aussi, il fallait les laver, les... Pour moi, c'était un plaisir.
Et tous les jours, vous montiez
Deux fois par jour. Non, bien sûr, c'est automatique. Mais au départ, il fallait que je mette des rideaux sur les vitres avec le soleil. Donc ça pouvait griller les lentilles de l'ampoule. Donc il fallait que j'aille mettre ça tous les matins. Et tous les soirs, il fallait que j'aille les enlever. Ah, il y avait 50 marches, quoi. Ça, on est monté en courant, on descendait en courant. C'est pas comme maintenant, hein. Parce que j'étais jamais venue dans le phare ici avant que je sois gardienne, hein. Parce que les gardiens qui étaient avant, ils n'avaient pas d'enfants ni rien, donc ils étaient solitaires, quoi.
Et c'était quoi votre première impression en arrivant ici?
Je découvrais quelque chose de spécial, quoi. Mon mari était ravi de voir, lui qui adorait la mer, parce que c'était un homme de la mer, hein. Il était heureux, heureux, heureux.
Peu importe où on regarde, là.
Et c'est la mer.
C'est la mer.
Et moi, je suis née avec la mer. Mon père disait autrefois, ah ben, c'est dans un casier que tu es née.
Et du coup, ça ressemble à quoi au petit matin, ici?
Bah, j'ouvre les volets et je regarde. Il n'y a pas de bateau en mer. Et puis, tiens, je dis, la mer est comme ça aujourd'hui. Elle est un autre jour, c'était autrement. Mais vous savez, ici, pas hier, avant-hier, je pense, bah, j'ouvrais mes volets à 8 heures. Il y avait du monde qui faisait des photos déjà.
Et le soir, ça ressemble à quoi par ici?
Quand c'est calme, mon Dieu, je ne peux pas vous dire ce que je ressens. C'est tellement calme, tellement apaisant. Il y a du monde qui vous photographie le coucher de soleil ici.
Il y a plein de rochers par ici aussi.
Oui, c'est très... C'est pour ça qu'il y a le phare, hein. Parce que ça fait le relais entre l'île de Bas et l'île Vierge. Parce qu'ils étaient trop loin l'un de l'autre, si vous voulez. Donc, il fallait un troisième ici.
Et là, aujourd'hui, il sert encore, le phare.
Ah oui. Et il servira jusqu'à la nuit des temps, hein. Ça, malgré que je ne sais plus quand est-ce qu'il s'allume, quand est-ce qu'il s'éteint. Parce que tout est monté là-haut. Et avant, quand même... bon, c'est moi qui le démarrais, hein, de toute façon, et qui l'éteignais. Mais on entendait. Mais là, c'est rien.
Avant, vous entendiez toujours un bruit?
Ah oui. On s'habitue à tout. Hein.
Et à votre retraite, on ne vous a pas demandé de partir?
Ben non, parce que personne ne venait après moi. Ils me l'ont proposé, moi j'ai dit oui. Et maintenant, bon, il n'y a plus personne, hein, parce que c'est automatisé. Alors ça démarre tout seul et ça s'arrête tout seul. Il n'y a plus personne dans les phares.
Il y a des gens comme vous qui y habitent?
Ben, je suis la dernière fois de garder.
Et vous avez des petits-enfants?
Oui, j'en ai 3 et 2 arrière. Le petit, quand il est venu, un des petits, quand il a vu la mer, il avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il se demandait ce que c'était. Mamie du phare, voilà comment on appelle.
Et quand est-ce que vous avez arrêté, du coup, de tenir le phare?
2003. J'avais 62 ans. Cette coupure, parce que si on était parti ailleurs, eh ben, ça aurait été une vraie coupure. On a continué à vivre comme avant. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, je l'ai dit haut et fort dans tout. Je veux mourir ici.
Vous êtes liée à la mer
Ah oui, à fond, hein. On allait au Guémont, on allait...
C'est quoi le Guémont?
Ben, c'est ce qu'il y a sur les rochers, pour enfumer les terrains.
Donc, vous preniez ce qu'il y a sur les rochers ?
Avec une petite fourchette. Le goémon, c'est des algues.
Ouais. Vous savez pas ce que c'est, quoi.
Bon. Puis alors, on avait... Parfois, il y a des algues d'épave aussi. La mer apporte sur la plage et qui part plus, quoi. Donc, on y allait. Et ça, on avait pour des journées, parfois. Hein.
Et pourquoi il fallait le faire ?
Parce que, je vous dis, on le faisait sécher sur les dunes. Et parfois, on l'amenait directement dans les champs. Oui, c'est du fumier. Mais presque mieux que le fumier.
Et ça se fait encore maintenant ?
Ah oui, mais seulement il faut une distance maintenant pour aller à la place. Ah.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Tu viens à la...
Bonjour.
Tu viens à la... Comment ? À l'interview de IFA.
Marie-Paule, c'est un peu une star. Elle est passée dans tous les médias de France et elle est bien entourée par ses proches. Alors après la visite de son voisin, nous reprenons notre discussion en parlant de son mari et de sa vie sur les mers.
Pour moi, mon mari devait tenir. C'était une force de la nature de tout ça. Jamais malade. Un dur d'ici, quoi.
Vous êtes dur ici ?
Ben oui, on est obligé. Hein. On était un peu élevés à la dure quand même. Hein. Parce qu'autrefois, ici, les gens étaient un peu plus sauvages, quoi. Dirons nous. Ils étaient habitués à vivre dans leur quartier et puis pas aller plus loin, quoi. Ils allaient peut-être aller de Nevin, avec le car, au marché, des trucs comme ça, mais sans plus. Parce que quand il. Enfin, mon mari peut-être était particulier, j'en sais rien. Et quand il arrivait à la maison, il posait ses valises dans le couloir. Ouf ! Il s'occupait de rien. Il me faisait confiance. Et voilà, ça se passait comme ça.
Donc c'est vous qui faisiez tout,
tout, tout, tout. Que ce soit la comptabilité, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour... tout, tout. Ah oui, mes enfants, bon, c'était moi. J'étais obligée de chercher les écoles. Dans les écoles, on n'a jamais vu la signature de mon mari.
Et c'était pas trop pour vous ?
Ah, je le faisais. Je le faisais parce que j'étais obligée.
Et vous, vous vouliez des enfants ?
Oui, j'en voulais trois. Et mon mari, comme il avait 9 ans de plus que moi, il dit avec deux, nous avons assez. Et je ne regrette pas parce qu'un troisième, après, c'est encore autre chose. Ouais. La grossesse a été. J'ai fait presque seule, quoi. Mon mari était parti 8 mois, je crois. Ah oui, 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 oui.
Mais il a su que vous étiez enceinte ?
Ah, ou... quand même.
Vous l'avez envoyé un télégramme ?
Non. On s'est écrit, quoi. Et puis, il a eu une chance d'être en congé juste sur l'accouchement. Donc, et quand il venait pour 2 mois.
Et donc, du coup, vous apprenez que vous êtes enceinte, il est pas là ?
Non, il n'est pas là.
Et vous vous souvenez de ce moment où vous apprenez que vous êtes enceinte ?
J'étais déçue hein, qu'il ne soit pas là. Quoi. Mais enfin, j'étais contente d'être enceinte aussi. Hein. Et ce que j'ai fait, je suis allée chez ma mère tout de suite. Et puis voilà, mon père et ma mère étaient heureux pour moi. Là, ça a été le bonheur total. Quoi. Ah oui, d'être enceinte. Et puis alors, j'étais d'un calme. Je crois que pendant toute ma grossesse, je n'avais que 9 de tension. Je ne sais pas, j'étais tranquille, j'étais... heureuse de porter un enfant, je pense, c'est ça.
Comment vous avez fait pour en avoir que 2 ? À l'époque, il y avait des contraceptions ou des...
Ça a commencé.
Le fait que votre mari ne soit pas toujours là, c'était pas...
Les premières fois qu'il est revenu... Bon, la première fois, ma fille était épouvantée de voir un homme à la maison.
Et ça, comment il l'a vécu ?
Vous savez, c'est un homme de la mer, il ne s'exprimait pas beaucoup. Et c'est ça, ici, hein. Non, moi qui parle facilement, eh bien, il ne parlait jamais pour rien dire.
Et vous, les femmes, alors, comment vous faites pour...
Nous, on était... vous voyez, j'étais autant chez ma mère que chez ma belle-mère. Et nous étions l'opposé.
Et vous étiez amoureuse ?
Sûrement, oui. Sinon, je ne serais pas mariée avec lui. Hein.
Parce que c'est quand même particulier d'épouser quelqu'un qui ne sera pas toujours là.
Oui, c'est sûr. Hein. C'est... Ben, d'ailleurs, ce que m'avaient dit mes sœurs et mon frère, hein. Je lui ai dit tant pis, c'est lui, c'est pas un autre. Les retrouvailles étaient toujours bien.
Vous saviez quand il allait rentrer ou c'était...
Ah oui. Il n'y avait pas de téléphone. Ici, au phare, il y avait le téléphone. Je suis sûre que j'étais la seule à avoir le téléphone en ce moment-là. Donc en 68. Hein. Mais c'était par télégramme. On travaillait... c'est la poste qui venait nous envoyer le télégramme, quoi. Pour dire quand est-ce qu'il rentrait. Et vice-versa, quand il fallait qu'il parte, ben, c'était pareil. On était loin de tout, là. Hein. Ah oui. Mon fils voulait faire le même métier que son père. Bon, et mon mari ne voulait pas. Et il dit, tu te rends compte de la vie qu'il aura, et je veux pas qu'il ait la même vie que moi. Et puis, bon, finalement, quand il a eu son PEPC, il voulait absolument aller à l'école maritime. C'était à la mer Vraque. Mais il fallait l'autorisation obligatoire du père. Et mon mari ne voulait pas. Alors on se disputait par lettre. Hein, parce que moi, j'avais l'engin ici à la maison, qui ne travaillait plus à l'école. Et mon mari qui disait non toujours. Je lui ai dit, comment je vais faire ça, moi? Et par bonheur ou par malheur, mon mari a fait une chute de 4 mètres de son bateau. Donc, je reçois un coup de fil de la compagnie. Il me dit, Mme Gwen, votre mari est à l'hôpital. Mon Dieu, je lui dis. Oh, ça a été un choc. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah voilà, il est tombé de 4 mètres de haut parce que c'était des portiques, vous savez, sur des grands bateaux, quoi. Bah, finalement, dans son malheur, il a eu de la chance. Il avait cassé sa jambe, je crois. Il avait su comment se retomber, quoi. Et donc, il est venu en ambulance de Rouen, à la maison. Et là, c'était au moment où il fallait inscrire son garçon. Et là, je lui ai dit quand même, il faut que tu fasses un effort parce qu'il veut faire que ça. Je lui ai dit, il ne travaille plus à l'école. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Bon, il y a qu'à... Alors, il me dit, là, j'ai dit, attends, je vais te donner... Son truc à signer. Quoi. Il faisait contre-cœur, mais bon. Si bien qu'il a pu repartir quand même, donc c'était pas trop grave. Bon, je lui dis, mais tu sais qu'il te faut ton brevet, BEPC obligatoire, je lui dis, pour aller à l'école. Mais dans son dossier, on avait dit le niveau du BEPC. Mais moi, je voulais pas. Mais ce qu'il savait pas non plus, c'est que par son père, il rentrait à l'école maritime à 100%, et moi, je lui ai donné des points aussi. Et ça, je l'ai caché jusqu'au dernier moment. Hein.
Et parfois, votre mari, il disait qu'il ne se sentait pas proche de ses enfants ou qu'il aurait voulu être plus là. Il l'exprimait parfois ou...
Oh non, mais je devinais quand même. Et les départs étaient toujours de plus en plus difficiles, quoi. Ouais.
Vous pleuriez parfois ou...
Oh ben, à chaque fois, hein.
Ouais.
Ah oui. Je pleurais sur le quai de la gare quand j'allais l'amener au train, hein.
On s'habitue jamais?
Ah non, jamais. Jamais. Pas ça. La séparation est toujours dure, hein.
Et quand il est rentré, vous vous souvenez?
Ah ben oui, tout le monde, c'était la fête, hein, les enfants descendaient, parce que c'était souvent la nuit qu'il arrivait. Mais alors là, il venait, il débarquait. Souvent, le port d'attache était Dunkerque. Donc il y avait des taxis spéciaux, on appelait ça les taxis bretons, qui les prenaient au port, quoi, et puis ils venaient en taxi jusqu'à la maison. Ouais. C'était pas une mince affaire quand même.
Et ça ne lui a pas fait bizarre à votre mari d'être à la retraite et du jour au lendemain d'être tout le temps là?
Ouais, ça m'a fait drôle d'avoir un mari tout le temps. Vous vous rendez compte d'avoir un homme tout le temps? Et je prenais ma voiture, je partais. Je lui disais même pas où j'allais. Puis elle me dit, Amélie, tu oublies que je suis là tout le temps, hein? Merde, tu dis. Parce que lui, bon, il avait son bateau, il allait en mer, il faisait... On était indépendants tous les deux, quoi. Moi, ça me dérangeait pas d'aller, par exemple, quelque part sans mon mari. Tellement habitué.
Du coup, vous avez dû réapprendre à...
Oui, à vivre avec lui, quoi. Lui faire son repas de midi, le soir, et savoir ce qu'il aimait finalement, quoi.
Vous vous réunissiez entre femmes de marin?
Ah oui. On tricotait, on faisait... Et l'été, à la plage, on se retrouvait aussi, avec les enfants.
Et vous nagez?
Je nage, mais pas très bien. Hein. Ben non, parce qu'on nous a jamais bien appris, quoi.
Les pêcheurs ne savaient pas nager?
Non, mon mari ne savait pas nager. Avec toute la carrière qu'il a eue, non. C'était même pas une idée qu'il le fallait, hein. Tous ceux qui faisaient la pêche, comme mon père, tout ça, il n'y en avait pas un qui savait nager. Moi, si j'ai pas pied, je coule. Là, c'est une chance, on a toujours de l'eau. Parce que sinon, elle va loin, quoi. Mon plus gros souvenir de tempête. Il y en a eu. Mais Le plus gros, quand même, c'est qu'on s'est cru sur une île, une nuit. Oui, il y a un bras de mer là, hein. Et ce côté-ci aussi. Ils se sont rejoints. Avec la force du vent, avec une marée, ben, ça s'est la mer est venue plus haut qu'il fallait. Et parfois, quand il y a des tempêtes comme ça, plus moins, mais je trouve qu'il y a moins de marée maintenant. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Avec la force du vent.
Et il y a des moments où c'est très calme.
Ah oui, très très calme. La mer est d'un lac. Je peux vous dire quand même que je ne sais plus quand est-ce la mer est haute, quand est-ce qu'elle est basse. Tellement habitué. Vous voyez, être comme ça dans le fauteuil et puis écouter le bruit de la mer, magnifique.
Et du coup, comment c'est chez vous? Donc vous avez, c'est, donc là c'est le salon, là oui. Vous avez la cuisine.
Une petite cuisine qu'on ne peut pas manger dedans. Hein. Et là ce sont les sanitaires, la salle de bain et les toilettes et ma chaudière. Et là-haut, c'était les chambres des enfants. D'accord. Ici, c'est ma chambre.
L'escalier pour monter au phare, il est derrière.
Oui, oui. Et les marches, là, elles sont trempées l'hiver, parce qu'une humidité d'abord. Et là-haut, là, il y a une petite porte, et c'est pas clos, quoi. Alors quand il pleut, il y a la petite jusqu'en bas.
Et avant, vous faisiez le ménage des...
Ah oui, de tout, hein. Et que ce soit toujours impeccable, quoi. Là-haut, il fallait... Ah, c'était un sport d'aller faire les carreaux là-haut. Ouais. Parce qu'il fallait au moins les faire tous les 15 jours. Quoi. Ah, oui. Et puis les cuivres, les loupes qu'il y a, il y a des cuivres pour les soutenir.
C'est quand même une grosse responsabilité de tenir un phare, non?
Ah, oui, quand même. Enfin, c'est pas commun.
Parce que quand même, si par exemple, vous n'entendez pas cette alarme...
On est obligé d'entendre. On est obligé. J'en faisais des bons. Voilà. Ça faisait partie de notre vie. On vivait avec. Je ne peux même pas vous expliquer ce qu'on ressent. Parce que, regardez, ma chaudière, elle fait du bruit. Bon, on vit avec. Tout ça, c'est. La mer fait du bruit. On vit avec. On s'habitue à tout. Ben, le phare, à ma foi, c'est un. C'est petit d'abord. Hein. L'appartement est petit. Mais c'est un nid. Quand on y est, forcément. Les gens voient ça d'un autre œil, c'est grand, c'est... Non, vous voyez, tout se passe ici. On est comme dans un nid, quand on est tous là, parfois on est serré, on est bien, et puis on aime bien se retrouver, surtout.
Et si vous deviez décrire ce que vous voyez de vos fenêtres, pour les gens qui ne savent pas où c'est?
Ah, je peux dire que c'est un endroit plein de rochers. C'est ça, hein, vous avez vu les rochers.
J'ai vu.
Et là, maintenant, avec la mer qui est... Voilà, on voit encore mieux.
C'est magnifique.
Et voilà, moi, ça ne m'a pas surprise. Parce que je suis née ici. Parce que plus loin, du côté où j'habitais avant, c'est plein de rochers aussi. Mais quelqu'un qui vient de Marseille, par exemple, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ben, on dirait un peu un autre monde.
Oui, voilà. Ici, on est au bout du monde. En Bretagne, Penarvet. Ça veut dire bout du monde. Et c'est vrai, arrivé ici, on ne peut pas aller plus loin.
Et là, on est donc dans un bout qui s'appelle la Côte des Légendes.
Oui.
Pourquoi ça s'appelle la Côte des Légendes?
Bon, déjà, il y a eu le dragon. C'est une légende. L'histoire de Saint-Paul, bon, il paraît que c'est vrai, mais c'est une légende. Il paraît qu'il arrivait ici à la chapelle Paul, il venait d'Angleterre, dans une auge en pierre. Enfin, c'est une légende, ça. C'est pas possible. Voilà. Et il y a plein de légendes tout le long des côtes, là.
Et vous avez grandi avec ces légendes?
Ah oui, oui, oui. Ah oui, elle nous racontait ça, on était naïfs. Hein.
Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de chiens, vos enfants, ils sont partis de la maison, il n'y a plus votre mari. Vous vous sentez comment ici?
Je me sens... Parfois, je me sens seule. Et il y a des moments où je ne veux pas sortir, que je veux voir personne. Je passe mon temps dans un bouquin ou dans mes mots fléchés ou croisés ou n'importe quoi, mais je veux voir personne. Je ne souffre pas de solitude quand même. Je vous ai tout dit, je pense.
Ah si, ça toque.
Marie-Paul.
C'est qui?
Viviane, la fille à Jean-Marc.
Ah ouais.
Je dis à ma copine, je dis. Moi, je dis bonjour à Marie-Paul. Depuis longtemps que je ne l'ai pas vue, je dis. Et tu vois, je ne savais même pas trop sûr que c'était ici. Oh non, mais on a été au restaurant tous les deux. À Coupa, tu sais.
Pardon.
Oui, allô?
Oui?
Oui, Marie-Paul Le Gouen?
Oui.
Oui, bonjour, je suis journaliste pour Météo à la carte, émission France 3.
Les affaires reprennent comme de l'autre.
Mais c'est complètement fou.
Oui, hein. Marie-Paul Le Guen, d'où il sort celui-là?
Je vous le disais, Marie-Paul, c'est une vraie star. Si vous passez par ce phare, vous pourrez avoir une pensée pour cette femme incroyable qui habite dedans. Son histoire raconte un bout de l'histoire des Bretonnes et un bout de l'histoire des femmes de marins. J'aime imaginer son enfance dans ce quartier de pêcheurs et imaginer sa vie de femme avec ses deux enfants, ici, dans ce lieu si incroyable et unique qu'on a du mal à se dire que c'est ça, son quotidien.
J'ai vraiment une belle vie parce que j'ai pu faire ce que je voulais quand même. Non, je vous ai raconté ma vie, hein.
Bah, c'était le but, hein.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.